Radio Esperanza.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez Radio Esperanza, la radio éphémère du Festival Esperanza qui est diffusée en direct durant tout le festival. Je suis ici avec Zou et François Phil. Salut Zou.
Salut Aline.
Et donc du coup, j'ai demandé peut-être à chacun un peu d'expliquer un peu plus qui vous êtes. Qui commence ?
Allez, je commence. Bonjour tout le monde, moi je m'appelle Vincent, je travaille pour le CADTM, donc le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. C'est une asso qui a été créée en 1990 pour travailler spécifiquement sur la question de la dette, d'une part la dette de la ville de Liège dans les années 90, et plus généralement la question de la dette dans les pays des Sud. On parle souvent de développement, on parle souvent de sous-développement surtout, et nous ce qu'on essaye d'apporter comme perspective, c'est de dire qu'en réalité les États ne sont pas sous-développés dans les Sud, les États sont pillés et colonisés d'un point de vue économique et non plus par la force, même s'il y a toujours énormément de violence. Et donc on va essayer d'amener une certaine perspective, en tout cas ici aujourd'hui, sur les liens entre l'endettement public des États des Sud, mais également des Nord, et puis aussi les richesses des milliardaires qui font fortune aujourd'hui et qui investissent énormément de leur argent dans les médias. Mais ça, je pense que les camarades à côté pourront enchaîner.
Merci Vincent, et tu fais bien de le dire. En fait, aujourd'hui, le sujet que l'on va explorer, effectivement, ce sont les médias et les médias au service de certains projets politiques. On parlera de propagande et aussi de la censure de certains médias qui permettent un contre-pouvoir. Mais voilà, ce sont les sujets qu'on va explorer. Brieux.
Bonjour.
Bonjour.
Moi, je m'appelle Brieux. Je suis chez Irruption Média et on documente les luttes sociales en Belgique francophone. Et donc voilà, on fait des vidéos et on documente les luttes.
Merci. Cyril.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Donc moi, je travaille chez Pour, et Pour, c'est un média de gauche, un média indépendant de gauche radicale qui existe depuis les années 70, qui s'est fait cramer leurs locaux par des fachos dans les années 80 et qui s'est recréé en 2015 à l'occasion des luttes contre le TTIP. Et donc nous, on est surtout sur de l'investigation, du temps long, sur de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale.
Ouais, c'est vraiment super en tout cas de se retrouver toutes ensemble ici pour explorer ce sujet, je pense, qui est crucial. Alors, on va commencer par Vincent. Je crois que tu peux nous apporter un premier éclairage, en tout cas une porte d'entrée sur le sujet.
Oui, du coup, comme je l'ai dit, nous au CADTM, on travaille plutôt sur des questions économiques. On pense que c'est vraiment ultra important en fait de prendre la question des inégalités sociales et la question des inégalités matérielles, et bien sûr de genre, de race au sens biologique. Il faut les considérer depuis un prisme économique, puisque on vit dans un système capitaliste néolibéral qui impose que pour survivre, il faut absolument qu'on fasse de la thune et qu'on puisse acheter une maison et se nourrir. Et si on a des gosses, c'est encore plus compliqué. Bref. Du coup, moi ici, ce que j'essaie de proposer, c'est en quelque sorte une généalogie du néolibéralisme autoritaire. C'est comme ça que nous on l'appelle. Il y a aussi beaucoup de recherches universitaires qui en parlent. C'est un mot alternatif pour clairement cibler un groupe. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fachos, la droite radicale, même l'EMR aujourd'hui dans sa communication, qui s'inscrit clairement dans cette stratégie-là. Et voilà quelques éléments qui nous semblent importants. C'est qu'aujourd'hui, dans les médias, de manière générale, on nous impose constamment de devoir se serrer la ceinture parce qu'on manque de responsabilité, de responsabilisation. On attaque constamment les personnes qui ont subi des parcours migratoires. On attaque constamment les personnes qu'on considère comme fainéants, fainéantes, qui sont les chômeurs, chômeuses. On attaque constamment les familles monoparentales. On attaque énormément les femmes. Et en fait, tout ce discours-là, selon nous, il permet de masquer plusieurs éléments, des éléments qui sont ultra centraux et auxquels on n'est plus du tout préparé, qui sont par exemple la question du changement climatique, la question des luttes féministes, la question décoloniale. En Belgique, on a toujours énormément de difficultés pour assumer notre héritage colonial, même s'il y a du travail qui est fait de plus en plus. Enfin bref, aujourd'hui, on est dans un discours qui a tendance à individualiser les échecs et à trouver des victimes pour pouvoir faire passer certaines politiques que nous on considère comme extrêmement violentes et qui sont des politiques basées sur une logique austéritaire. Alors, je voudrais donner 2-3 chiffres juste pour contextualiser. Ici, sur les 30 dernières années, disons, donc depuis 1995, et en réalité depuis avant aussi avec le tournant néolibéral dans les années 80, ce qu'on constate, c'est que le capital privé, donc le capital qui est possédé par les entreprises privées, est en train d'exploser. Vraiment, le montant sur les 30 dernières années, ça fait, selon Oxfam, plus de 342 000 milliards. Et cette augmentation de 342 000 milliards, si vous la comparez avec l'augmentation des ressources publiques, 342 000 milliards, c'est 8 fois plus que les ressources publiques qui sont donc disponibles pour contribuer au bien-être social des États. Alors en Belgique, on a un cas un peu particulier parce qu'on est la capitale de l'Europe, on est le centre de l'Europe occidentale, on a l'OTAN, on a toutes les institutions européennes. Et donc on a un peu cette image de l'État tampon qui a été construit, enfin qui a obtenu son indépendance, mais surtout grâce à la clémence des grandes puissances autour de nous. Et donc en Belgique, on a cette situation où on est endetté à environ 110% de notre PIB. Et donc la dette, enfin le produit intérieur brut en Belgique, il équivaut à environ 642 milliards. Donc ça, c'est la somme de tout ce qu'on produit. Et notre dette, elle est évaluée à environ 650 milliards. Et donc ça démontre deux choses. La première, c'est que on est très endetté. Et puis ça soulève une question, qui est la deuxième chose que je voulais mettre en avant, c'est que pourquoi est-ce qu'on s'endette, comment est-ce qu'on s'endette et quelles sont les conséquences. Et donc ce qu'on voit objectivement, c'est que en fait, depuis 30 ans, on n'a pas des problèmes de dépenses. Nos dépenses, elles sont restées extrêmement stables. Et donc ça démontre par A plus B qu'on n'est pas en train de faire n'importe quoi avec notre argent. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que la dette, elle continue d'augmenter. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la dépendance que la Belgique a sur les marchés financiers. Et donc la Belgique, elle a besoin de se financer parce qu'elle n'a plus assez de thunes. Et donc elle se finance auprès des marchés financiers et elle devient dépendante de ces marchés financiers. C'est comme si vous achetez une maison, vous vous endettez pour acheter une maison. Selon votre statut, selon votre ménage, selon votre travail, selon votre type de contrat, vous allez avoir des taux d'intérêt qui sont plus ou moins intéressants parce que la banque a confiance en vous. Au niveau national et international, c'est relativement la même chose. Il y a des agences de notation, il y en a trois qui se partagent 90% du marché de la notation. Et ces agences-là, qu'est-ce qu'elles font? Elles fixent des notes aux États. Et donc par exemple, la Belgique, on est sur du triple A ou du triple A moins en fonction des agences. Et donc c'est quelque chose de très très correct. C'est vraiment très très bien. Ça veut dire que les marchés financiers ont confiance en nous pour qu'on leur rembourse leur argent. C'est aussi simple que ça. Donc ça, c'est la première chose. Vraiment, on est endetté, mais la dette, c'est pas un problème. Par contre, là où ça devient problématique, c'est comment cette dette, elle est présentée, instrumentalisée par les médias dominants pour imposer des cures d'austérité. Et donc ça, c'est vraiment la logique néolibérale. On va se tourner vers la privatisation. Si vous regardez dans les années 90, ce qui est devenu Belgacom, Proximus, c'était quelque chose qui avait été nationalisé. Si vous regardez les banques, la Banque Nationale de Belgique, si vous regardez la construction européenne, en fait, on a toujours tout orienté vers la privatisation, vers l'ouverture des marchés. Si vous pensez à l'OMC en 95, c'est on va réguler le marché des échanges commerciaux au niveau mondial. Et donc toute cette logique-là, en fait, elle démontre un truc, c'est qu'on doit se tourner vers l'extérieur. On doit absolument se tourner vers l'extérieur. Au dépend de notre population. On est de plus en plus endetté, on va imposer des cures d'austérité. Ces cures d'austérité, elles vont avoir des conséquences très précises, très matérielles, purement économiques sur les populations. Et c'est toujours vers les mêmes victimes. C'est toujours vers les fainéants, c'est toujours même vers les gauchos. Si vous regardez en France, les islamo-gauchistes, les woke, tout ça, c'est des individus qui sont absolument problématiques. Il faut absolument les contrer. Et donc, je voudrais enchaîner, juste comme ça, je fais le pont avec les camarades ici à table. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que cette richesse qui a été... cette richesse du capital privé qui a été accumulée suite à des années de néolibéralisme et donc suite à des années de privatisation, aujourd'hui cette richesse, elle est de plus en plus investie par les milliardaires dans les médias. Et les médias, ils ont un rôle extrêmement important à jouer puisque je pense qu'on est tous d'accord autour de la table ici pour dire que la neutralité, ça n'existe pas, l'objectivité, ça n'existe pas. C'est toujours une perception de la réalité qui est construite d'un point de vue et d'une temporalité. Et aujourd'hui, les êtres humains qui possèdent les médias et qui diffusent l'information, elle va toujours s'orienter vers la même chose. D'un côté, des fainéants qui foutent rien. D'un autre côté, des migrants qui violent nos femmes et qui viennent prendre notre travail. Mais par contre, sur les questions de justice fiscale, sur la question, par exemple, de la taxation des plus-values pour les riches, sur la question de la répartition des richesses, là, il n'y a personne. Et donc, je pense que c'est vraiment un des enjeux extrêmement importants pour nous, en tout cas au CDT, mais plus généralement pour la question des médias et la représentation de la réalité. C'est que grâce à cette richesse, grâce à cette accumulation de richesses, il y a un niveau de pouvoir qui est devenu tellement important. Et je pense qu'on va en parler avec Rossel, IBM, etc. En fait, il y a des monopoles de plus en plus dans toutes les directions. Et ces monopoles, puisqu'ils deviennent les uniques acteurs de ces marchés-là, ils peuvent décider de comment ils vont présenter les choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça laisse plein d'enjeux sur le côté. Et c'est des enjeux auxquels on doit faire absolument face aujourd'hui. Et voilà, je ne vais pas continuer là-dedans parce que je pense qu'on pourra y revenir plus tard. Mais voilà, toutes les luttes que Radio Esperanza ou que le Festival d'Esperanza essaye d'amener ici et dans cet espace-là qu'on est en train de partager ensemble, c'est des luttes qui ne sont pas présentées. Et dès qu'elles sont présentées, elles sont réappropriées, elles sont réinstruites. instrumentalisée. Et ça, c'est le fort du capitalisme. C'est la capacité à se réapproprier quelque chose. Si vous pensez au film Barbie, il y a quelques années, ben voilà, Barbie, c'est génial, c'est l'émancipation de la femme, c'est la reconnaissance du féminisme à Hollywood, mais c'est juste une industrie afrique, quoi. Et donc, voilà globalement, moi, ce que je souhaitais mettre en avant ici pour la conversation pour le moment. Je ne sais pas si quelqu'un...
Super éclairant, Vincent.
Peut-être j'ai trop parlé.
Merci. Non, c'était... voilà, je crois que j'ai enfin compris un peu okay. La dette.
Il y a beaucoup plus de choses à dire, évidemment, mais je pense qu'ici, le cas particulier qui nous occupe, je me semble...
Tu as tissé vraiment un premier fil.
Moi, j'ai juste une question, mais on n'est pas obligé d'y rester longtemps, vu que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais il y a une phrase que tu as dite qui est « Avoir de la dette, ce n'est pas grave en soi, et ça m'a... » positif, je ne sais pas si tu l'as dit ça ou pas, je ne sais pas.
Ouais.
Mais et en quoi c'est positif d'avoir une dette?
Bah, c'est
en
un
quelques
peu,
mots.
Ouais, si on reprend un niveau individuel, je trouve que c'est souvent parlant. Si on reprend un niveau individuel, par exemple, voilà, vous devez trouver un travail ou vous voulez suivre des études. Et donc, par exemple, vous allez vous endetter. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez vous endetter pour acheter une voiture. Et cette voiture-là, elle va vous permettre d'aller au travail ou de conduire vos enfants à l'école. Donc, ça va donner accès à l'éducation. Si vous avez un problème de santé, ça vous permet d'aller à l'hôpital. Donc, vous êtes endetté pour acheter une voiture, mais ce véhicule, il vous permet d'accéder à toute une série de services. Et le problème ici en Belgique, enfin, je ne sais pas si vous avez suivi un peu les accords gouvernementaux de l'Arizona, mais là, récemment, l'accord d'été, c'est dans le projet, c'est les allocations de chômage, c'est à 2 ans maximum. Toutes les personnes migrantes, ça dégage. Et si vous voulez rester, les regroupements familiaux, vous allez vous faire foutre. Mais par contre, il y a les États-Unis qui sont barrés de l'OTAN et il y a une invasion russe en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit protéger le sol européen. Et donc, on va acheter 11 F-35 à l'armée américaine, bien sûr. Et donc ça, ce sont des investissements qui ne sont pas du tout légitimes. Et donc nous, on travaille spécifiquement sur la question des dettes illégitimes parce qu'il y a des dettes qui servent les intérêts de la population et il y en a d'autres qui contribue à la rendre de plus en plus précaire. Donc c'est dans ce sens-là que je présentais la dette comme...
Ok, merci. Oui, c'était limpide. Merci. Okay, trop merci bien. Beaucoup.
C'est encore plus clair.
Trop bien.
Merci. Alors, l'idée, donc, si j'ai bien compris, c'est de dire, en fait, là, ici, le cas, c'est qu'un projet politique mené par l'État peut utiliser des médias pour faire évoluer, en fait, l'idée dans la tête des gens que, finalement, c'est peut-être de leur faute et du coup, ils vont devoir travailler plus.
C'est ça.
Alors qu'il y a bien d'autres raisons.
Si on regarde en France, encore une fois, Bayrou récemment, qui a dit qu'il allait supprimer un jour férié. Dans quel monde est-ce que ça sert à quelque chose de supprimer un jour férié alors que quand tu regardes la composition du gouvernement sur les 21, il y en a 19 qui sont millionnaires. Donc, jour férié, là en Belgique on a décidé d'arrêter la rémunération supplémentaire pour le travail de nuit qui est un travail ultra précaire, qui est compliqué, qui impose des logiques familiales, des logiques relationnelles qui aliènent littéralement. Mais par contre la taxation des plus-values, on a vraiment dû pousser pour avoir... Bon, j'ai plein de critiques à faire à Voreut, mais reconnaissant qu'il y a un parti de semi-gauche qui soit présent dans la coalition fédérale, qui s'est barré de la coalition de gauche qui était possible à Bruxelles. Mais bon, ça c'est un autre débat. Enfin, voilà, il y a des endroits où on peut aller chercher et on va toujours taper sur les mêmes, on va toujours aller chercher sur les mêmes. Et c'est probablement, pour moi, un des gros enjeux sur les questions médiatiques.
Merci, Vincent. Du coup, en fait, dans l'espace médiatique, passent des projets politiques. On parle de projets politiques et avant, il y avait quand même des projets politiques qui ne passaient pas, comme par exemple les projets politiques d'extrême droite. Il y avait quand même un cordon sanitaire. On voit que le cordon sanitaire s'efface de plus en plus. Il y avait aussi cette super métaphore, la fenêtre d'Overton, qui permettait de cadrer quand même certains discours et de dire là, on dépasse ce qui est audible. Donc voilà, on avait quand même un cadre qui gardait un peu certaines valeurs démocratiques. On voit que cette fenêtre d'Overton, elle explose aussi. Comment vous, en tant que média, vous voyez ça auprès des médias souvent mainstream ou
Effectivement, pour l'instant, au niveau des médias mainstream, la fenêtre d'Overton ne cesse de s'effacer de plus en plus. Elle était fort présente encore en Belgique francophone, beaucoup moins en Belgique néerlandophone. Et là, c'est en train, avec Georges-Louis Boucher, c'est en train d'arriver en Belgique francophone aussi, où même là, elle est en train de sauter de plus en plus. Enfin, on a vu Georges-Louis Boucher qui va sur CNews pour dire que c'est vraiment très triste de partager le discours de Trump avec une minute différée et que les Belges sont pas assez intelligents pour réfléchir par eux-mêmes. Alors qu'en fait, la Belgique a toujours été conçue par ce système de compromis à la Belge qui fait qu'on va pas vers les extrêmes et qu'on garde toujours un côté de... les choses avancent moins vite, mais au moins il y a toujours ce dialogue qui est fait. Et pour l'instant, le dialogue Et c'est ça qui est très triste, c'est qu'on est en train de rompre ce dialogue pour aller vers les extrêmes et pour aller vers juste... Enfin... Oui. Donc ouais, cette fenêtre est en train de sauter de plus en plus et on entend de plus en plus de choses dans les médias et c'est vraiment dangereux à l'heure actuelle et vers la fascination politique et vers le monde vers lequel on avance pour l'instant. C'est vraiment... Oui.
Et donc pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas cette fameuse fenêtre d'Overton, donc si je ne m'abuse, c'est une fenêtre d'opinion et d'idées qu'on considère acceptable dans le débat public. Ouais. Est-ce qu'on peut résumer ça comme
c'est
ça ?
C'est comme ça qu'on le résume. C'est ce qu'on peut dire et ce qui est accepté qu'on puisse dire publiquement. Et donc c'est des choses qui sont très diverses en fonction des pays et en fonction des situations. Là où en France, avec CNews, c'est une fenêtre qui n'existe presque plus. Enfin, ils savent qu'ils jouent dans ce jeu-là et ils l'écartent de plus en plus. Et ces médias d'extrême droite qui sont tenus par des personnes d'extrême droite permettent d'écarter toujours de plus en plus. Et il y a toujours ce. Au final, ça veut dire que des choses qui n'étaient pas acceptables avant le deviennent maintenant, alors que c'est des choses qui théoriquement ne sont toujours pas acceptables maintenant. Sauf que les médias arrivent à le relayer de plus en plus et petit à petit, ça prend une place qui est considérée comme normale dans notre société.
Merci.
Par exemple, comme la remigration ou des idées qu'avant c'était même pas, c'est pire qu'une idée hein, comme projet, mais avant c'était même pas entendable ni audible. On pouvait pas le dire, en tout cas, pardon, on pouvait pas le dire. Maintenant, ça, voilà, c'est décomplexé et c'est des choses qu'on entend pour permettre quand même de pouvoir installer dans la tête des gens que c'est possible.
Oui, Pascal Praul qui va un jour dire sur CNews qu'il fallait peut-être réouvrir des bagnes. Il l'a juste dit une fois, histoire de lancer le truc. Et en fait, c'est juste des mots qui sont anodins pour plein de gens quand on ne s'intéresse pas au fond de ce qui est en train de se passer. Mais en fait, dès qu'on recommence à regarder ce qui se passe, c'est juste des couches en plus sur une situation qui est déjà dramatique et qui est déjà en péril. Et donc, c'est vraiment, vraiment dangereux.
Oui, c'est ça. On voit vraiment que les discours d'extrême droite augmentent sur les médias, là où avant, comme tu l'as dit, où il y avait un certain contrôle. Même les partis de droite qu'on pourrait appeler traditionnels, qui sont reconnus comme traditionnels, lâchent des discours d'extrême droite, des discours très violents. On l'a vu avec Georges-Louis Boucher qui a dit que le coup des micro-bombes là, était un coup de génie. On l'a vu. Cyril,
Je rejoins totalement ce qui a été dit. Et pour juste compléter sur Georges-Louis Boucher qui passe chez Pascal Praul, c'est quand même sidérant qu'on ait le président du MR qui dise que 25% de la population belge qui vote pour le Vlaams Belang, c'est un courage démocratique de devoir parler avec le Vlaams Belang. On a Boucher qui nous annonce donc que rompre le cordon sanitaire, c'est un courage politique et que le MR est le seul parti qui, en tout cas en Belgique francophone, pense à réaliser ce genre de choses. Je trouve qu'on est sur une pente vachement dangereuse. Et juste pour compléter sur la théorie de la manipulation de l'extrême droite et des médias, ça rejoint un peu ce que disait Steve Bannon, le conseiller politique de Trump, et qui explique la dynamique de Trump de balancer un maximum d'horreurs. Et dans ces horreurs-là, ce qui rejoint un peu l'infobésité, de nous donner tellement d'infos qu'en fait on va être surchargé, on va plus savoir exactement discerner le vrai du faux et on arrive dans une ère de post-vérité dont tu parlais précédemment. Et je trouve que oui, c'est une situation assez complexe.
Et est-ce que tu crois que c'est une certaine volonté de sa part,
de Steve Bannon?
Non, de notre président qui s'exprime sur une chaîne française pour dire ce genre de propos. Donc c'est une certaine volonté politique et de communication surtout.
Assurément, oui. Assurément, et c'est assez sidérant de voir à quel point il se calque sur les mêmes dynamiques politiques que Trump. Et à quel point il y a vraiment une trumpisation de cette image politique-là. Et c'est peut-être pas pour rien qu'on le déteste autant ici.
Et quand tu disais, est-ce que c'est une volonté, quand on sait qu'il va sur CNews, on sait très bien dans quel média il va, il sait pourquoi il va dans ces médias-là, et il sait que là-bas il peut y aller, et que là-bas il est un peu, il pourra dire ce qu'il veut et qu'il sera écouté, et donc c'est une volonté, il sait très bien dans quel cours il joue.
Ouais, et du coup ça m'amène à une autre question, parce que moi je suis un peu tombé de ma chaise quand on a un peu essayé de programmer cette émission tout à l'heure hors antenne, j'étais pas du tout au courant de ça, et justement ça m'amène à cette question qui est, pourquoi en fait cette information n'a pas été relayée, ou a-t-elle été relayée et je l'ai loupée?
C'est une très bonne question. Elle a été diffusée sur le site, on en a parlé, mais ce sont, bah, comme on l'a expliqué, ce n'est absolument pas la logique valorisée, même dans le cadre de la formation journalistique. On l'a vu en France avec ce qui se passe, Bolloré qui rachète l'université à Paris. Je veux dire, on est clairement dans une dynamique où, en aval, il y a une volonté réelle déjà de d'homogénéiser le discours. Et donc tout discours divergent est directement mis au banc.
Mais je pense que c'est toi, hein, qui as un peu cité cette phrase. Tu as parlé de médias dominants. Mm-hmm. Donc oui, tu viens de dire, ça a été publié sur Pour, mais Pour qui est un média complètement indépendant. Et ça, c'est une véritable force, finalement, de pouvoir relier ce genre d'infos sans passer, bah, tu l'as dit, bon, maintenant on rentre dans des discussions autres, mais ouais, c'est super important de... Justement, on voit l'importance de ces différents médias.
Et ouais, tu soulèves un point intéressant, c'est de voir à quel point l'indépendance médiatique s'opère, c'est-à-dire que Pour n'a pas de subsides. Et en fait, au début, on cherchait des subsides. Et on s'est peut-être dit que, en fait, l'intérêt, justement, c'est de ne pas avoir de pouvoir subsidiant, de sorte à pouvoir être entièrement indépendant et de reposer uniquement sur ses abonnés, ce qui est la démarche de pas mal de médias indépendants. Et je pense qu'il est la démarche la plus saine à adopter.
En tout cas, chez Pour, vous fonctionnez comme ça. Et j'imagine que chez Irruption Média aussi.
Oui, on n'a pas de subsides non plus. Et on fonctionne principalement sur le don des personnes qui nous suivent. Et... voilà. Je ne crache pas sur les personnes, enfin sur les orgas qui sont subsidiés, parce qu'il y en a qui ont quand même des subsides, mais tout en gardant leur opinion et tout en gardant leur ligne directrice et tout en étant contre le fait d'être limité dans leur manière de fonctionner, comme ZinTV par exemple, qui a des subsides mais qui gardent leur ligne directrice et qui ne comptent pas la changer pour autant. Et donc nous chez Irruption, on n'est pas subsidiés, voilà, principalement des dons et des financements. Externe.
Et donc vous êtes des sacrés contre-pouvoirs médiatiques quand même pour nous permettre de faire un pas de côté et de regarder en fait ce qui se passe sous nos yeux, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion quand on lit les médias mainstream de pouvoir se rendre compte, surtout qu'en plus maintenant il y a une réorganisation des médias structurellement, enfin il y a des rachats par des milliardaires pour faire passer leur projet politique qui est majoritairement d'extrême droite. Ou alors même, en Belgique, il y a eu une fusion, c'est bien ça, avec Russell, qui a notamment Le Soir Max, Sudinfo, Ciné Télé Revue et IPM, qui eux ont La Libre, l'ADH, Les Sports, Paris Match, et donc ils ont fusionné.
Donc pour l'instant, eux ont officialisé leur volonté de fusionner les deux groupes. Et ça, j'ai pas l'info officielle, donc je pense que pour l'instant, c'est en train de passer devant l'autorité belge de la concurrence pour avoir l'approbation. Et donc, mais voilà, c'est leur volonté. Donc, c'est une fois de plus, ça veut dire que les deux plus gros groupes principaux en Belgique vont fusionner ou pourraient fusionner. Et donc, ça veut dire que tout va appartenir à une seule fin, à une seule entité. Et ça devient dangereux.
Oui, il me semble que j'ai lu en fait que ils devaient avoir l'accord, parce que évidemment, le risque c'est de ne plus avoir de diversité d'opinions et de points de vue si les médias deviennent, comme on l'était tout à l'heure, un monopole. Et juste, là, ça va être compliqué d'entendre différents points de vue. Ça évoque un peu comme ça le projet Périclès. Est-ce que quelqu'un peut.
Du coup, c'est super intéressant. On n'est pas obligé de parler juste du projet Périclès. On peut parler de plein de projets différents. Mais en tout cas, le projet Périclès, donc c'est Pierre-Édouard Sterrin qui a fait toute sa fortune dans Smartbox. Donc Smartbox, c'était les boîtes cadeaux que tu pouvais offrir à tes amis et tes amis à Noël ou à ta famille. En mode, tiens, t'as ton colis et tu peux choisir ce que tu veux. Ça te donne un peu une autonomie. Et donc c'est cet individu qui a fait sa fortune principalement là-dedans et puis qui s'est rapproché progressivement des mouvances droite française, extrême droite française. Qui s'est rapproché également des mouvements ultra-catho. Donc il y a vraiment un projet civilisationnel qui est incarné par cet individu, Pierre-Édouard Sterrin, et qui aujourd'hui, depuis 2024 en tout cas, a lancé son projet Périclès. Et donc Périclès, c'est un acronyme, c'est patriotisme, catholicisme, enfin je sais pas.
Je l'ai ici, si tu veux, c'est patriote enraciné, résistant, identitaire, chrétien, libéraux, européen et souverainiste.
Voilà, c'est ça. Donc on a vraiment juste de la merde qui tombe, pardon. Et donc voilà, son projet il est assez clair et ses stratégies elles sont aussi très claires. Donc c'est soutenir notamment le Rassemblement National en France. Il a également tenté de se rapprocher d'Éric Zemmour, mais il dit que non, c'est pas vrai. Enfin bref, c'est toujours un peu la même chose. Et donc cet individu, son projet c'est d'investir sa fortune pour faire en sorte d'élire un représentant ou une représentante d'extrême droite. Et ça c'est en France. Alors petite anecdote, ce mec-là il est exilé fiscal en Belgique. Donc c'est comme ça qu'on se rejoint un peu sur la dette et sur la question des justices fiscales. Super intéressant. Et donc cette stratégie-là, elle n'est pas nouvelle en fait. Si on regarde Bolloré, hein, dont on a déjà un peu parlé tout à l'heure, mais qui a fait sa fortune en Afrique de l'Ouest, juste sur l'héritage colonial en fait, en France-Afrique. Enfin, pardon, France-Afrique, on s'entend. Et donc cette stratégie-là, elle est très claire, c'est racheter les médias, investir dans les médias pour défendre une réalité. Et si on sort un peu l'Union Européenne, si on sort du cadre francophone, si vous pensez juste à Elon Musk qui a racheté Twitter qui avait banni Donald Trump pendant les élections de 2016, hein, donc c'est un peu marrant comment les trucs ils se sont retournés. Et si vous pensez à Trump, du coup, plus spécifiquement, il a quitté Twitter et il s'est lancé dans quoi ? Son propre réseau qui s'appelle Truth Social. Et là, le but, c'est juste de lui pouvoir dire la vérité sociale. Enfin, c'est quand même un truc assez incroyable. Et donc, ces stratégies-là, en fait, c'est un mécanisme qui se reproduit absolument partout. Et donc, pour revenir sur Georges-Louis Boucher, pour revenir sur les attaques sur la RTBF, pour penser à Nadia Geertz aussi, qui parlait de Gaza tout à l'heure, voilà, la technique, elle est très simple. Hein, elle est très simple. Dès qu'il y a des contre-pouvoirs, on les attaque. On les attaque au maximum, on les enfonce. Et si jamais ça craque pas, c'est pas grave. Nous, on a les fonds derrière, on va investir dans d'autres médias. Et donc, je pense que le projet Périclès s'inscrit dans cette logique-là. À noter dernièrement que le mec, il était convoqué devant l'Assemblée nationale et il s'est pas pointé parce qu'il avait peur pour sa sécurité. Voilà, on a très bien le personnage en tête. Quoi.
Ben, merci beaucoup. Vincent, c'était super intéressant.
J'ai essayé d'être efficace.
Ouais, c'est efficace.
Efficace. Très merci. Efficace. Du coup, on va faire une petite pause musicale pendant laquelle on va diffuser Naked Talk de Benny qui est passé sur la scène Jardin début d'après-midi à 14h45 aujourd'hui. Et on va avoir la chance justement qu'elle vienne un petit peu parler d'elle après cette pause musicale. C'est parti.
Back to your place, we'll take a swim. We'll go downstairs, we'll sit on the couch. I will make you some tea. You wanna keep me close while you're watching TV. The sun will come out, my eyes will wake up. Will I spend the night and not realize I'm doomed to repeat what every minute's like? A sad, happy life, experimental. Why am I gone now?
Radio Esperanza.
Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous écoutez Radio Esperanza, la radio éphémère du festival Esperanza qui est diffusée en direct durant tout le festival. On est toujours avec nos invités Cyril du Média Pour, Vincent du CADTM et Brieux de chez Irruption Média pour parler médias, propagande et censure. Alors, on a parlé un petit peu d'économie avec Vincent tout à l'heure. On a parlé du cordon sanitaire, on a parlé des rachats des médias par les ultra-riches d'extrême droite. Et on a parlé brièvement du projet Périclès de Stérin. Et maintenant, on va plutôt se concentrer sur les médias indépendants, vraiment, Zou.
Oui, c'est ça, de voir comment, ben, du coup, par rapport à cette force médiatique qui grandit de plus en plus pour promouvoir des projets politiques ben, de plus en plus vers l'extrême droite et une certaine fascisation, ben, comment justement on peut avoir un contre-pouvoir et ces contre-pouvoirs médiatiques via des médias indépendants, mais je pense qu'ils vont en parler mieux que moi. Alors la question en fait, ben, déjà, est-ce que vous sentez un média libre ? Comment vous permettez aux citoyens de comprendre un peu ben justement la pensée mainstream? Comment est-ce qu'on peut faire un pas de côté quand on est submergé en fait par des informations
Ben je pense qu'il y a, des aspects assez intéressants, à reprendre pour nous, de pouvoir se recréer des narratifs à gauche de manière générale, reprendre la théorie de l'hégémonie culturelle de Gramsci par exemple, qui est bien utilisée par les fachos, qui est bien reprise par les fachos actuellement. Et du coup, en tant que médias indépendants, nous, la grande chance, c'est de pouvoir valoriser des luttes militantes malgré des harcèlements qui peuvent avoir lieu de manière juridique ou autre. C'est assez intense à ce niveau-là, et éviter le burn-out militant à ce niveau-là, c'est compliqué. Mais
tu as parlé de l'hégémonie de
l'hégémonie culturelle de Gramsci. Donc le principe de dire que la lutte passera par la culture, et que du coup de pouvoir créer de manière générale des narratifs, c'est primordial pour pouvoir avoir une conscience du militantisme de manière générale. Et ce qui est dommageable, c'est que ces théories-là sont reprises par les fachos actuellement, les néolibéraux autoritaires, comme disait Vincent. Et là-dessus, on a un gros travail à faire.
Et quels sont, par exemple, les sujets que vous traitez pour éclairer comme ça ?
On a différentes thématiques. Moi, je travaille principalement sur les aspects décoloniaux, mais ce sur quoi on travaille actuellement, c'est sur l'évasion fiscale. Là, dernièrement, une des enquêtes qu'on a produites a réussi à démontrer, c'est pas très étonnant, mais que Macron est un évadé fiscal très intense, c'est-à-dire que le président de la République française a lui-même empêcher la République de toucher plusieurs millions d'euros qui étaient dus à la République. Bref, à ce niveau-là, on enquête pas mal, par exemple, ici, pour donner un sujet qui nous a mené à des procédures juridiques derrière. On a enquêté sur l'affaire Verbruggen, qui est une affaire de fraude à l'héritage, impliquant la famille Verbruggen, qui est une riche famille. Donc le père est décédé, il y a 7 enfants qui se partagent l'héritage. Sur ces 7 enfants, Luc Verbruggen a décidé de déclarer la totalité de l'héritage, estimé à plusieurs milliards. Donc il y aurait 100 millions d'euros à récupérer pour la région Bruxelles-Capitale sur ce seul héritage. Le procès dure depuis plus de 20 ans. C'est de la corruption à tous les étages, c'est-à-dire que des juges sont arrivés sur le dossier, ont fait disparaître des preuves. Et une juge, Sylvana Verstreken, est liée à une affaire de meurtre par rapport à ce dossier-là. Et cette même juge nous a attaqué ensuite en diffamation. Et donc on a eu gain de cause, parce qu'on avait un gros dossier derrière. Mais le simple fait d'avoir un harcèlement juridique ça implique pour une structure minuscule qui est pour d'avoir un coût moral et psychologique et économique intense. Et donc en fait c'est des procédures bâillons qui s'opèrent de manière régulière, et voilà.
Brieux, est-ce que, et vous, comment chez Eruption, vous permettez aux citoyens comme ça d'avoir un autre éclairage sur ce qui se passe ?
Donc effectivement, avec Eruption, on documente les luttes et les mobilisations. Donc on est principalement là-dessus. Et donc on essaye de donner la parole à tout le monde, que ce soit une grosse structure, une plus petite, pour laisser la place à tout le monde et pour pouvoir, in fine, montrer et visibiliser l'ensemble de ce qui se passe en Belgique francophone, puisque c'est principalement là-dessus qu'on travaille.
Et donc, en fait, si je comprends bien, vous êtes surtout un média de terrain, alors. C'est donc ça. Vous allez suivre des actions. C'est ça, en fait, visibiliser les luttes.
Oui.
C'est ça.
Donc, on est principalement... Eruption est fondée sur la base de la vidéo et donc de documenter les luttes par le prisme de la vidéo. Et en parallèle, il y a plusieurs formats différents, dont certains des fissures ou des récits qui permettent pour certains de remettre... Enfin, les récits, c'est par exemple... des luttes où nous on peut pas aller, mais on connaît, enfin on a les récits qui nous arrivent, et donc ça nous permet de les réécrire, et on a des personnes qui collaborent avec nous pour des jolis designs et pour des belles illustrations. Et donc ça a pour but de remettre en récit et de raconter leurs histoires, puisqu'in fine c'est pas notre histoire, nous on ne fait que passer de l'information, et donc ça permet de visibiliser leurs luttes et leurs mouvements par soit la vidéo, soit l'écrit. Et donc voilà.
Vincent,
je crois que ce que tu viens de dire, Brieux, ça se rapproche super fort de ce que tu disais, Cyril, sur la question de l'hégémonie culturelle et la nécessité de recréer des récits et des narratifs de gauche ou qui sont représentatifs des besoins de la population. Et il me semble que justement le travail d'Eruption sur ces questions-là permet vraiment de rentrer sur des luttes super spécifiques dans des contextes super spécifiques et de dire ah putain, ils ont fait comme ça, ou elles ont eu cette idée-là. Et juste on se dit ok, en fait c'est possible. Alors bien sûr on est dans un contexte qui est complètement différent, mais le travail des médias indépendants, en tout cas de ce que vous avez l'air de raconter, il me semble que c'est vraiment de plus en plus important, si pas ultra nécessaire, pour contrer tout ce dont on a parlé dans la première partie de l'émission, où justement on décrit toutes ces attaques sur le service public, sur les médias dits dominants. Et il me semble que cette importance de recréer des narratifs, elle est ultra importante pour nous.
Oui, et justement, on parlait en première partie d'émission, Roger Périclès, par exemple, qu'on a cité, de ces grands propriétaires, enfin propriétaires non, on a parlé d'acheter, d'investir dans les médias. Est-ce que c'est une pratique qu'on retrouve ici en Belgique ? Parce qu'on en parle souvent pour les médias français, mais j'ai l'impression, en tout cas, on va dire pour la grande partie de la population, qu'aucune information ne transpire par rapport à ce genre de pratique ici en Belgique, du moins en Belgique francophone.
Mais donc pour l'instant, on a encore, mais une fois de plus, ce compromis à la belge qui permet de rester... on n'a pas une personne directement liée à un média comme Georges Le Boucher qui va directement faire passer ses idées par le biais de son média et de ses médias, parce qu'il n'en a pas un. Mais en parallèle, on a du coup IPM qui est en train de fusionner avec le groupe Rossel.
IPM,
c'est deux groupes qui ont plusieurs médias, plusieurs chaînes en Belgique. Et donc IPM et Rossel, c'est les deux grands groupes principaux en Belgique. Et il y a pour l'instant une fusion qui est en train de passer. Enfin, c'est ce qu'on se disait tantôt aussi. Et donc ça veut dire que tout ça va appartenir à un seul groupe. Et donc c'est là que l'information... Enfin, il n'y a plus la multitude d'informations. Et c'est aussi ça qui est hyper important dans tous les médias, que ce soit chez nous, que ce soit dans l'ensemble des médias des grands groupes. C'est de pouvoir diviser l'information pour se renseigner sur plusieurs endroits différents et se faire un propre avis. Et donc voilà, quand tout appartient à une seule personne, c'est là que ça devient dangereux, parce que du coup c'est eux qui font passer leurs idées ou leurs idéaux, et il n'y a plus cette pluridisciplinarité de l'information.
Pardon, ouais, je crois que c'est vraiment ça la question des monopoles, en fait, que ce soit dans n'importe quelle étape de la société, n'importe quelle structure, à partir du moment où il y a des monopoles. Enfin, de base, si on se souvient bien, le néolibéralisme, il essaie de défendre quoi ? La pluralité. On s'est dit que plus il y avait de compétition et plus les marchés allaient être équilibrés. Ce qu'on voit là maintenant, c'est que le média, bon, on le sait depuis des années, hein, mais que le média, c'est une source d'information, mais c'est aussi surtout une source économique. On peut faire de la thune grâce aux médias. Et donc le fait d'avoir des monopoles, c'est de plus en plus problématique, parce que comme Brieux l'a super bien dit, si on a juste 3-4 sphères qui diffusent constamment les mêmes informations, en fait, on tombe dans cette réalité-là, et qui n'est pas la réalité. Et je pense que la deuxième chose, c'est, on a déjà parlé du rôle d'Eruption d'information et de pour dans leur travail d'enquête, dans leur travail de présentation, de représentation. Je pense qu'il faut aussi énormément considérer la façon dont les informations elles sont diffusées sur les réseaux sociaux. Et je pense que pour et Eruption font un super bon taf là-dessus. On se rend bien compte que les jeunes aujourd'hui sont de plus en plus, enfin il y a des données statistiques que j'ai pas sous les yeux, mais qui démontrent que la jeunesse se tourne de plus en plus vers des réseaux comme Instagram, comme Facebook, comme TikTok, et en fait les trucs peuvent être classifiés en fonction des âges. Et donc on voit par exemple qu'il y a des catégories plus âgées qui vont plutôt utiliser Facebook, et sur Facebook on va avoir plutôt ce type d'information. Sur Instagram on va avoir un autre modèle d'information, et sur TikTok on va avoir un autre modèle d'information, et sur Twitter n'en parlons même pas, on l'a déjà abordé tout à l'heure. Et donc ce rôle de médias intermédiaires ou de médias indépendants qui viennent faire barrage, c'est vraiment ultra ultra important, et je pense que les canaux sont aussi super importants.
Oui, moi je suis un peu d'accord avec toi, et pour rebondir un peu là-dessus, est-ce que vous, même, je m'adresse à vous trois, c'est une impression que j'ai, et est-elle juste, c'est ma question, que c'est quelque chose que la droite a très bien compris. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de compréhension de la communication qui est très très bien à l'heure actuelle formatée dans la pensée libérale, dans la pensée de droite, qui a une certaine aussi convergence des forces, une certaine synergie qui s'est créée. Et on peut ne pas même s'arrêter par rapport à la Belgique, on peut même parler à l'échelle européenne à l'heure actuelle, et que c'est quelque chose qui était très présent il y a quelques décennies dans les milieux, on va dire, plutôt de gauche, et qui s'est un peu effiloché à l'heure actuelle. Et que donc on patauge un peu dans les médias, peut-on dire, médias de gauche, tandis que la droite me paraît venir d'un seul gros bloc avec, tu le citais tout à l'heure, cette fenêtre d'Overton en plus, qui s'élargit et qui se déplace un peu plus vers le côté droit.
Donc, je pense effectivement que la droite sait très bien dans quel jeu elle joue et a une communication incroyable. Ils savent, voilà, la droite sait communiquer et la droite se base principalement là-dessus. Enfin voilà, quand on voit toutes les personnes maintenant de droite et d'extrême droite qui vont dans les médias avec leurs belles petites chemises, ils savent jouer et c'est aussi comme ça qu'ils attirent la jeunesse. Ils sont très fort présents sur les réseaux et leur communication est faite pour attirer et est faite pour faire joli. Malgré les discours haineux que eux transmettent, leur communication est faite pour faire belle et c'est un vrai danger. Et j'en profite aussi pour dire, tantôt tu demandais comment ça se passait au niveau des médias en Belgique, que c'était un peu moins comme la France par exemple, mais effectivement, sauf que Georges Leboucher a il a gentiment partagé l'idée de privatiser l'RTBF, et donc ça veut dire que ça appartiendrait à une seule personne, et donc c'est là que ça devient dangereux.
J'ai cru que c'était un faux article que tu avais amené. Non. Donc ici on est, bon, radiophoniquement c'est un peu compliqué, mais oui, il y a un article, une photocopie d'un article posé sur la table. Je peux lire le titre?
Oui, et c'est de Wilfried.
Donc c'est de Wilfried, et je lis le titre. Georges-Louis Boucher, deux points, ouvrez les guillemets. Dans ma vision, la RTBF pourrait être privatisée ou même supprimée.
Donc non, c'est un vrai article qui est paru chez Wilfried, un média indépendant belge aussi. Donc il faut souligner leur travail et leurs enquêtes. Et donc oui, non, c'est des vrais projets qui passent actuellement, tout comme la privatisation de la RTBF, qui sont juste, pareil, ça rejoint la fenêtre d'Overton, c'est juste une idée qui propage pour l'instant et qui, in fine, pourrait avoir lieu un jour, parce que l'idée sera passée chez les gens, tout comme il y a un risque pour l'instant de passer, de diminuer le nombre de médias de proximité. Et c'est, in fine, ce que nos petits médias indépendants font, sauf que nous, on travaille avec... Enfin, on sait très bien que la lutte passe aussi par le... Enfin, financièrement parlant, ben, on sait dans quel cours on joue. Là où les médias qui sont déjà plus actualisés et qui risquent d'être supprimés, ça devient un vrai danger pour LE de pouvoir continuer à vivre alors qu'on leur coupe leurs subsides et qu'on diminue leur manière d'informer.
Moi, je voulais juste rebondir où tu parlais justement de la façon... Enfin, j'en ai parlé, puis tu as rebondi dessus sur la façon dont les... partis politiques utilisent, et donc la droite en particulier, utilise les réseaux sociaux et les moyens de communication pour diffuser leur message et leur campagne. Et ici, j'ai un petit graphique que je ne peux pas vous montrer, mais à vous, je peux vous montrer. où en 2024, donc en juin 2024, qui est donc la période des élections l'année passée, on voit que le parti qui a le plus dépensé, donc c'est 500 000 euros sur le mois en réseaux sociaux, c'est le Vlaams Belang. Et le Vlaams Belang termine deuxième parti en Flandre. le cordon sanitaire au niveau gouvernemental qui nous a permis de le maintenir à l'extérieur, mais qui a aussi gagné des villes. Je me demande si c'est pas Ninove, justement, avec Forza Ninove, qui est parvenu à monter dans le conseil communal, et je me demande pas si c'est pas le bourgmestre carrément. Enfin bref, c'était juste pour donner un petit chiffre là-dessus.
Et pour nos amis français qui nous écoutent, on est bien d'accord que le Vlaams Belang, c'est...
je vais aller définir, c'est pas cool.
Okay.
Des horribles personnes qui défendent une approche ultra-nationaliste, qui cherchent justement de s'entourer uniquement de personnes qui leur ressemblent, qui croient en la méritocratie et qui sont prêts à exclure tout le monde par tous les moyens.
C'est une très bonne définition.
Très bien.
Pour contextualiser un petit peu, en fait, on n'a pas vraiment expliqué c'était quoi un média indépendant. Parce que je trouve que les médias militants sont souvent associés aux médias indépendants, alors que ce n'est pas la même chose. Un média militant, je pense, peut ne pas être un média indépendant. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu
C'est une bonne question. Média indépendant, on n'est pas subsidié par l'État. On n'a personne au-dessus qui nous finance. Et donc, in fine, ça veut dire qu'on fait nos propres choix éditoriaux sur la manière, sur l'information que l'on veut traiter et sur l'information que l'on traite. Et donc, on n'a pas des risques de perdre des subsides si on parle de telle ou telle thématique. Et donc, en étant indépendant, ça veut dire qu'on est libre de gérer l'information et de parler de l'information que l'on veut, même si, d'un point de vue politique, c'est une information qu'ils ou elles ne veulent pas entendre. Donc, ça nous permet cette liberté des sujets qu'on traite. Et on peut être indépendant tout en étant subsidié. Donc, ça n'est pas, in fine, la seule définition. Mais donc voilà, on est libre.
Et du coup, est-ce que on vous laisse être libre? Parce que vous chatouillez quand même beaucoup de monde. Du coup, on vous laisse faire, on vous laisse dire, on...
Ça dépend des sujets, je dirais. Par exemple, on a eu pendant quelques temps, on a eu la candeur de croire que le financement journalistique au niveau européen aurait pu nous permettre de mener une enquête sur BlackRock. On n'a jamais obtenu ces subsides. Et on se doute de la raison réelle derrière. Oui, c'est, pour rebondir sur ce que tu disais, un des gros soucis qu'on a au niveau médiatique, c'est que les néolibéraux milliardaires, les 1%, ont bien compris justement la bataille culturelle qui est en jeu. Et ils le disent eux-mêmes. C'est une guerre civilisationnelle qu'ils sont en train de mener, et Bolloré l'a dit. Et à ce niveau-là, les armes sont plus lourdes de leur côté.
Et donc sur la question, est-ce qu'on nous laisse faire ou on nous laisse dire, pour l'instant, c'est en train de vriller gentiment, petit à petit. Et donc non, sur le terrain, ça commence à devenir de plus en plus dangereux, où on nous empêche de traiter l'information, on nous empêche d'accéder à l'information, alors qu'il y a un droit fondamental, et on va parler de chien de garde de démocratie, c'est les personnes qui sont sur le terrain pour pouvoir documenter et pour pouvoir rapporter l'information au plus près de l'information et jusqu'au bout de l'information. Et c'est quelque chose qui devient de plus en plus compliqué. Donc, par plein de procédés différents, on nous empêche d'avancer là-dessus.
Et comment est-ce qu'on concrètement on peut vous empêcher
Nos chers politiques ont quelque chose qui s'appelle la police et qui a pour but à ce niveau-là de gérer la manière dont ils veulent faire passer l'information. Alors que, légalement parlant, on peut être sur place. On parlera tantôt de la carte de presse. La carte de presse n'est pas obligatoire en Belgique pour être journaliste. Donc on n'a pas besoin de la carte de presse pour pouvoir traiter de l'information. Et c'est pour ça qu'on parle de chien de garde de la démocratie au plus haut niveau juridique. Donc c'est les personnes présentes pour rapporter l'information et pour montrer ce qui se passe. Et donc c'est là, à ce niveau-là, que la police met des pressions perpétuelles, et de plus en plus régulières quand on traite de l'information. Et c'est là que ça devient dangereux. C'est au niveau des arrestations, au niveau des menaces, au niveau des pressions sur le fait de reculer toujours plus la presse de l'information directe et donc de tout ce qui se passe sur le terrain. Et voilà.
Merci.
Ben oui, moi j'ai eu la chance, d'assister à la projection Cine TV Éruption. Et c'est vrai que dans les reportages qui sont diffusés, ils parlent justement de la manifestation anti-Bardella qui a eu lieu le 13 novembre, durant laquelle les journalistes, je ne sais pas si c'est Cine TV ou Éruption, qui se sont fait matraquer par la police, et la police a pris toutes les images qu'ils avaient prises ce jour-là.
C'est effectivement Cine TV où leur journaliste s'est fait menacer, s'est fait arrêter dans un premier temps. Je pense qu'elle s'est fait relâcher après, mais par contre, ils sont partis avec ses cartes mémoire de ses appareils, ce qui est illégal. Et donc, une plainte a été déposée de leur part. Et il y a un très bon article dans le Médor numéro 38 qui traite de la, du fait que la police considère maintenant les journalistes sur le terrain finalement comme des militants et met tout le monde dans le même paquet et donc arrête, menace, et donc ça devient de plus en plus compliqué à être sur le terrain, à pouvoir apporter l'information alors que c'est primordial. Et au final, c'est la seule manière d'avoir une information claire, c'est de montrer ce qui se passe. Et c'est quelque chose qu'on nous empêche de faire de plus en plus.
Et je suppose aussi que la question financière, enfin déjà, trouver des financements, c'est compliqué pour vous. Du coup, je suppose aussi qu'au niveau défense en justice, c'est compliqué parce que ça coûte super cher. Et donc, ça peut vous mettre à terre aussi. Donc,
effectivement, la justice, ça coûte super cher. Et c'est là qu'il y a la question de la carte de presse. Donc la carte de presse, il y a la principale qui est celle de l'AJP, l'Association des journalistes professionnels, qui permet d'avoir une aide juridique. Sauf que pour avoir la carte de presse de l'AJP, il faut pouvoir prouver 2 ans de métier principal. Et en 2 ans, on a le temps de se faire arrêter beaucoup de fois quand on a comme base principale de documenter les luttes. Et donc, c'est toujours la grande question. Je me suis fait arrêter 2 fois dans l'année qui vient de s'écouler. La dernière fois, c'était avec l'action de Stop Arming Israël, où j'étais arrêté avec des Legal Observers. Et donc il y a la question de porter plainte, sauf que porter plainte, ça a un coût financièrement parlant, ça a un coût en temps, et on se bat contre une institution qui, elle, a les sous, a le temps, a les juristes et a l'aide dans tous les niveaux. Et donc c'est effectivement très compliqué de réussir à aller on veut juste faire respecter nos droits, et c'est là que c'est compliqué de réussir à faire ça.
Ben même oui, Cyril, tu parlais tout à l'heure du fait que pour s'être fait attaquer pour diffamation, la défense à ce niveau-là, ça doit aussi coûter de l'argent. Enfin, c'est tout.
Oui, exactement. Comme le dit bien Brieux, il y a de multiples manières de nous censurer d'une manière ou d'une autre, et pour le coup, n'est pas son premier procès. C'est-à-dire celui-là n'était pas le premier, ne sera probablement pas le dernier. Ça signifie peut-être aussi qu'on fait bien notre travail.
C'est effectivement ça la grande question, c'est pourquoi on nous empêche de faire notre travail ? Est-ce qu'on dérange d'une manière ou d'une autre ?
Est-ce que vous n'allez pas déranger un peu de plus en plus ? Parce que là, on a vu quand même qu'il y a une bataille culturelle qui est menée, que l'extrême droite y met les moyens, qu'ils prennent aussi, on le voit bien aux États-Unis, que les GAFAM... impose une certaine censure indirecte quand ils travaillent sur les algorithmes pour faire passer telle ou telle information. Vous, comment est-ce que vous voyez le futur justement qui risque, autant se préparer.
Mais effectivement, est-ce qu'on va déranger de plus en plus ? C'est la grande question. Quand on sait que par exemple, c'est les mouvements où la répression ça va souvent le plus, c'est les mouvements, on va reparler de la manif contre Jordan Bardella, donc sur la question de la droite ou l'extrême droite. Quand on est sur des actions comme Code Rouge, ou l'action de Stop Arming Israël, où c'est là qu'il y a le plus d'arrestations de journalistes ou de personnes sur place pour documenter ou pour suivre, comme les Legal Observers. Et donc au final, et alors que c'est des mouvements qui, pour l'instant, il y a eu un projet de loi qui est en train de passer pour tenter de dissoudre ces mouvements. Et donc effectivement, quand on documente des mouvements qui dérangent, c'est là qu'on nous empêche, en général, de faire notre travail correctement.
Là où je rejoins aussi, c'est on parlait de recréer des narratifs, recréer des imaginaires, et tu parlais des GAFAM. C'est une nécessité aussi pour nous, et c'est quelque chose auquel on pense, mais qui est compliqué à mettre en place, d'investir des réseaux sociaux alternatifs qui sont déjà existants, déjà disponibles, et il serait peut-être temps qu'on s'y tourne un peu plus, quoi.
Et justement, on parlait dans la première partie d'émission, donc là j'ai la chance d'avoir des médias indépendants en face de moi. Médias, tu l'as évoqué, Brieux, on est censé être objectif, mais allez, soyons honnêtes, on ne l'est jamais totalement. Donc on a plutôt une direction, qu'elle soit de droite, de gauche, du milieu, ou peu importe, son cheval de bataille. Maintenant, comment fait-on la différence ? Je pose ça là, mais comment fait-on une différence entre un média indépendant qui relaie de l'information ou un média militant ? Y a-t-il une différence ? Sentez-vous que vous êtes plutôt l'un, plutôt l'autre, les deux ?
Pour moi, à l'heure actuelle, un média ne pourrait pas exister sans être militant. On parlait de l'inexistence de l'objectivité. L'objectivité actuellement, c'est la subjectivité des puissants et des dominants. Je pense qu'il y a un travail d'honnêteté intellectuelle à avoir, de se positionner et de dire d'où on s'exprime. Après, évidemment, que tout est axiologique. Tout dans le journalisme est cadré. Le simple fait de l'ouverture d'un journal, l'ouverture d'un JT, la dynamique, les sujets choisis, évidemment que ça implique aussi une réalité derrière.
Et à ce niveau-là, si on repart par exemple vers Histoire Crépue, qui est un média français qui a pour but d'apporter de l'information de manière décoloniale, en fait ça suit ce principe de on est dans une société qui est fondée sur des principes qui nous dépassent depuis longtemps, donc les médias mainstream sont basés là-dessus, alors que dès qu'on va un peu plus loin et dès qu'on essaye de voir les choses différemment, c'est là que ça bloque d'un point de vue politique, ou c'est là que ça dérange en tout cas plus, quand on replace l'information dans un contexte qui, à leurs yeux, dérange, alors que c'est un contexte in fine sur lequel la Belgique est fondée. Et donc on essaye juste de remettre les choses dans un contexte actuel mais global.
Vous venez d'évoquer là un projet de loi, c'est ça? Est-ce qu'on peut revenir juste pour un peu conclure? Donc il y a 3 jours, le gouvernement a approuvé l'avant-projet de loi sur les organisations radicales. Donc l'idée, en fait, c'est justement de pouvoir éteindre le contre-pouvoir de façon légale, un peu comme en France. C'est ce genre de loi qui a permis de mettre par terre les soulèvements de la terre, par exemple.
Mais en France, ils n'ont pas mis par terre les soulèvements de la terre, ils ont tenté de les mettre, mais effectivement, ils n'ont pas réussi, parce que les soulèvements de la terre ne sont pas une organisation unique, mais un regroupement de différents individus qui avancent collectivement ensemble, dans une dynamique. Mais effectivement, c'est ce qui est en train d'essayer de se passer pour l'instant en Belgique, où il y a des mouvements de gauche, il y a aussi quelques mouvements de droite qui sont concernés par cette question. Mais effectivement, il y a un objectif de dissoudre ces mouvements-là. Mais c'est juste des mouvements concentrés d'individus qui avancent sur des dynamiques communes et qui en fait se battent juste depuis des semaines, des mois, des années sur des thématiques. On va reprendre le cas de Code Rouge. On a eu des manifs climat à Bruxelles avec plus de 500 000 personnes. On en a eu, je ne sais plus en quelle année, mais tous les mois, il y en avait une. Et maintenant, on va dire à Code Rouge qu'ils sont dangereux. Alors qu'au final, non, c'est juste des gens qui ont tenté de parler, ne sont juste pas écoutés, et donc qui commencent à avancer pour essayer d'être écoutés. Et pour s'attaquer aux problèmes directs, vu que quand on parle à nos politiques, quand on va à Bruxelles et qu'il y a des manifestations, et que juste ces gens-là essayent de mettre en lumière des problématiques, là, c'est pas écouté. Et quand on s'attaque à la problématique, là, on les dissout.
C'est de plus en plus la mise en place d'outils légaux pour permettre, en fait, au contre-pouvoir de se taire, leur fermer complètement la bouche. François-Philippe, tu voulais proposer une réflexion?
Oui, tout à fait. Mais tout doucement, mais je vois leur tourner. Et je m'inquiète justement de notre prochain artiste, parce que l'artiste nous attend ici, en antenne, mais j'aimerais bien profiter de la présence de vous pour vous poser une question. Alors, selon vous, la culture est-elle politique?
Oui, la culture, c'est politique. On a Esperanza, et Esperanza met en lumière le côté politique de la culture. C'est, malheureusement, il faut absolument que le monde culturel reprennent ce côté politique en main, sauf qu'une fois de plus, quand on parle de subsides, de choses comme ça, oui, c'est dangereux, c'est dur de se positionner et d'oser se positionner, sauf qu'il faut se positionner. Dans le monde actuel, il faut se positionner. La droite, l'extrême droite vont se positionner et vont le dire ouvertement. Et il faut absolument que le monde de gauche, que le monde culturel ose prendre position, comme le fait Esperanza, avec le Village des Possibles, avec les organisations qu'ils ou elles invitent, avec les artistes qu'ils ou elles invitent. Et donc il faut absolument, oui, la culture c'est politique et il faut oser le prouver. Enfin, il faut oser prendre cette place-là.
Moi, pour conclure, j'aimerais bien conclure sur une dernière question. Désolée, François, ta question, c'était l'avant-dernière. est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs et auditrices ce qu'elles pourraient faire pour vous soutenir?
Personnellement, chez POUR, en dehors des soucis économiques que toute association vit, ce qu'on recherche extrêmement sont juste des personnes qui veulent participer avec nous à la lutte. C'est-à-dire que POUR est une structure horizontale et on est absolument toujours à la recherche et ouvert à ce que des personnes viennent, ne serait-ce, je sais pas, écrire, filmer, faire des interviews, venir aider pour nos conférences, etc. Donc de la simple présence humaine. Voilà.
Moi je vais dans le même sens. Nous, on a un peu un privilège au Salétem, c'est qu'on est financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles. On est une petite équipe, mais donc on est institutionnalisé. Et on se fait attaquer aussi de la même de façon différente, mais ça va être plutôt sur les contrats APE, sur la façon dont on va réformer le marché du travail. Donc ça, c'est complètement différent. Moi, surtout, ce que je voudrais dire, c'est que nous soutenez pas, mais soutenons-nous surtout, parce qu'on est ensemble dans la lutte. Et plus on parle ensemble, plus on crée des espaces de communication, et plus en fait on prend le travail sur les épaules, et enfin celles et ceux qui ont l'opportunité de pouvoir le faire, je pense que ça est le, et donc à nous par extension de pouvoir le faire. Je terminerai juste en disant que vraiment le plus important, c'est les terrains de lutte, les premiers c'est la famille et les amis, et on vous demande pas de changer le monde, on ne nous demande pas de changer le monde, juste essayez de le faire à votre échelle. Je pense que le travail il sera déjà bien entamé et qu'on tombera sur des trucs super pertinents à l'avenir.
Et au niveau d'irruption, oui, financièrement, si on veut pouvoir continuer à produire des vidéos, à continuer à avoir le matériel, à faire face à tout ce qu'on fait, à avancer sur le terrain, financièrement, on a toujours besoin. Maintenant, on est tous et tous dans les mêmes problématiques financières et culturelles associatives. Et donc l'autre truc, c'est venez voir sur nos réseaux et sur les réseaux de tous les autres et renseignez-vous auprès des médias militants, engagés, indépendants, et donc allez suivre tous les travaux qui sont faits. Il y en a plein, chacun a des thématiques, chacun a des manières de fonctionner, et c'est hyper intéressant, et il faut absolument avancer vers ça pour se renseigner, et c'est super important pour la suite et pour soutenir l'ensemble des médias ou des personnes qui collaborent là-dessus.
Et de vous relayer aussi, donc je suppose.
Oui.
Mais en tout cas, pour CADTM, Irruption Média, un grand merci.
Merci
d'avoir été parmi nous.
Merci
pour votre temps, merci pour votre investissement dans vos luttes respectives. Alors, je le répète, nous étions en direct depuis l'abbaye de Fleuref pour le festival Esperanza, donc sur le 106.2 FM ou en direct via notre site internet. Si vous nous écoutez et que nous sommes au mois de novembre, c'est que vous nous écoutez aussi par un podcast qui se trouve sur radio.esperanza.be. Nous étions aussi en direct grâce à Run Radio dans la région Namur, donc sur Run Radio dans la région de Namur sur le 88.1 FM. Nous étions aussi en direct sur Cigaloun dans le sud de la France, à Motte en Provence précisément. Et un tout grand merci aussi à nos radios partenaires, donc je les cite, Run Radio 48 FM, Radio Campus, Radio Panique, RQC à Moucron. Un tout grand merci à vous. Je vous souhaite un très bon festival, je vous souhaite un très bon moment et je rends l'antenne.
Merci pour le travail.
Merci à vous.
Radio Esperanza.